Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Imagine Campus, l'école qui fait confiance aux nouvelles générations. Une fois par mois, nous vous invitons à la découverte de parcours, portraits et points de vue de personnalités inspirantes qui chacune, dans leur domaine, ont inversé la tendance en donnant du sens à ce qu'elles faisaient. Qu'est-ce que tu inverserais de ton parcours? Quel métier tu voulais faire ado? Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver au cours de tes études? Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Nos invités de Sens Inverse nous répondent en toute simplicité pour vous montrer que tout est possible. Alors on vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Camille.
Bonjour Théo.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
Très content de te recevoir sur ce podcast Sens Inverse de l'école Imagine Campus. Alors Camille, tu es adjointe au maire de Bordeaux depuis bientôt 3 ans, en charge de la vie associative et maire du quartier Nansouty-Saint-Genès depuis octobre dernier. Tu es également conseillère métropolitaine à Bordeaux Métropole depuis le début de ton mandat d'adjointe au maire. La politique, ça n'était pas forcément une envie, un objectif pour toi. C'est venu un peu par hasard et on y reviendra. Tu as créé en 2006 le blog écolo Écolo Girl, une militante du bon sens qui prône un monde plus engagé, plus soucieux du vivant. Une militante qui organise aussi des apéros écolos, qui en a organisé en tout cas pendant longtemps. Et tu as écrit un livre, « Tout le monde ne raffole pas des brocolis », paru en 2018. Alors Camille, première question, ce podcast s'appelle « Sens inverse ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inverser la tendance?
Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette question? D'inverser la tendance, c'est-à-dire?
C'est-à-dire de ne pas prendre la direction potentiellement que beaucoup de personnes t'indiquaient ou que la société peut t'indiquer et te dire ah, « moi, c'est pas là, je vais pas suivre le troupeau, je vais le faire à ma manière ».
Ok, parce que moi, dans inverser, j'entends vraiment être à contre-courant et partir vraiment de l'autre côté. Donc,
Ça peut être...
Moi, ouais. Je suis plutôt pour les chemins de traverse.
Ok, que bah, prenons ce chemin de
traverse.
Complètement
à contre-courant, je crois.
Ouais.
Oui, je pense que depuis que je suis un peu tombée en amour pour l'écologie, c'est plutôt quelles sont les voies parallèles. Il y a cette voie qu'on nous vend... justement, qu'on nous vend vraiment dans la surconsommation, l'ultralibéralisme, etc., faut consommer, faut s'acheter le dernier truc à la mode, le dernier, je vais pas citer de marque.
Smartphone, par exemple.
Ouais, par exemple, ou vêtements, smartphone, ou etc., SUV, tatatitatata, tout ce que nous vend la publicité et tout cet idéal de consommation qui nous dit achetez, vous serez heureux. Et puis, moi, assez finalement rapidement, quand j'avais la petite vingtaine, on peut dire, ça remonte maintenant, hein, mais quand j'avais 22-23 ans, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être une autre façon de faire et que c'est pas forcément l'argent, la surconsommation qui rend heureux, mais c'est peut-être être un peu plus soucieux du vivant, avoir un petit peu plus de gratitude pour la vie qu'on a et cette belle planète qui est quand même assez unique en son genre dans cette immensité de l'univers. Donc voilà, je dirais pas être à sens inverse, mais regarder un petit peu les chemins de traverse. Ouais.
Ouais. Et alors ce lien justement au vivant, à l'écologie, il te vient d'où? Tu dis vers 22-23 ans, comment ça t'est venu?
Alors j'ai toujours été sensible à la nature et aux animaux, j'ai toujours eu ce lien-là, mais je ne l'avais pas forcément conscientisé. Mmh. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler, donc moi j'ai fait des études de communication, sans savoir trop ce que j'allais faire, puisqu'au départ, justement, je voulais être concepteur-rédacteur dans la pub. Donc, tu vois, je reviens de loin quand même. Hein. Et c'est en faisant un stage où je me suis rendu compte, mais Camille, est-ce que c'est ça que tu veux toute ta vie, écrire des scénarios pour de la lessive ou des bagnoles? Et j'ai pris conscience que finalement, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, c'est très intéressant les stages, franchement, pour ça, pour les prises de conscience. Et finalement, je me suis retrouvée un peu par hasard, mais depuis maintenant, je pense que le hasard n'existe pas, mais je me suis retrouvée dans cette petite entreprise de compléments alimentaires naturels. Et c'est là où je suis vraiment tombée dans le bio, en allant dans les magasins bio et en faisant des animations, des formations pour les vendeurs. Et c'est là où je me suis rendue compte qu'il y avait une autre façon de manger, de se soigner et finalement d'envisager la vie. Mmh. Et c'est là où, à force de rencontrer toutes ces personnes, de discuter, d'agréger comme ça plein de connaissances, je me suis dit, je ne peux pas garder tout ça pour moi et j'ai ouvert mon blog Écolo Girl en 2006.
Ouais, et on va revenir là-dessus justement. Mais tu l'as dit, c'est intéressant, tu ne savais pas ce que tu voulais faire quand tu as choisi tes études.
Oui.
Ça t'a pas fait peur ou... Parce qu'on peut se sentir parfois un petit peu paumé. Justement, alors ce podcast s'adresse aussi à des étudiants,
hein,
donc ils sont en train de faire des choix qui ne sont pas des choix de vie non plus, hein, c'est ce que tu viens de dire. Donc faisons baisser un peu la pression qui parfois peut être importante. Toi, comment tu l'as vécu cette période-là et te dire, ok, je choisis ça, puis peut-être qu'on verra après. Comment tu as vécu ce passage-là?
Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire comme étude. Ce qui était certain, c'est que j'étais une littéraire et pas une scientifique. Donc ça, c'était... voilà. Après mon bac que j'ai eu à 17 ans, je suis partie aux États-Unis. Donc ça, c'était super parce que j'ai fait une deuxième terminale et ça m'a permis de voir l'American Way of Life. Et peut-être que ça aussi, ça m'a fait prendre conscience déjà que la surconsommation, c'était pas top.
Ouais.
Je suis revenue, bon, j'ai fait sciences du langage sans trop savoir. Donc, j'ai plus choisi mes études par appétence plutôt que par métier derrière.
Mmh.
Mais c'est en deuxième année où je me suis dit, bon, maintenant, il va peut-être falloir vraiment s'orienter. Et c'est là où je me suis retrouvée à faire des tests pour trouver son métier, en
ouais,
gros.
Okay.
Et en remplissant tout ce test et qu'il me dit, bah, vous êtes faite pour la communication. Je fais, c'est cool, très bien. Bon, bah, y a quoi comme étude? Et j'ai passé 2-3 concours. Et voilà comment je me suis retrouvée à faire des études de com qui m'ont beaucoup plu.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est quand même assez large pour après s'orienter. Mais finalement, c'est hyper difficile de demander à un jeune de 20 ans « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir la vocation. Et d'ailleurs, je trouve que l'école en général ne nous ouvre pas suffisamment aux différents métiers qui existent. Et combien je vois encore aujourd'hui de jeunes qui s'orientent vers des études sans trop savoir vraiment ce qui leur plaît dans la vie.
Ouais.
Et je trouve qu'on devrait beaucoup plus faire venir des gens parler de leur métier. Il y a des métiers très peu connus.
Ouais.
Et puis, il y a combien de métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore? Et on le voit, la mutation tout le temps avec notre société. Il y a tout le temps des nouveaux métiers qui se créent.
Ouais.
Et ça, il faut être très à l'affût de ça. Et je pense que l'école n'y est pas encore. Quoi.
Ouais.
Heureusement qu'il y a des écoles comme la vôtre.
Je te demanderai justement à la fin les conseils que tu auras donnés. Il y en a un que tu viens déjà de saupoudrer. Pourquoi tu as voulu partager ton engagement via le blog, donc tu l'as créé en 2006, t'aurais pu t'engager toi, solo, et pas forcément avoir envie de le partager?
Ouais, mais ça, je crois que c'est dans ma nature.
Ouais.
C'est que juste que je trouve... Bah, à partir du moment où je fais des expériences sur moi-même, que je me rends compte qu'en arrêtant le lait le matin, je vais mieux dans ma journée, ou des choses comme ça, je me dis, mais j'ai besoin de le partager, quoi. C'est dans ma nature. Et très, très clairement, au début, c'était pour mes copines. Hein. Moi, je pensais pas que... Enfin, voilà, c'était l'époque des blogs, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà, il faut quand même se remettre dans l'époque 2006, hein, on n'y est pas encore. Et voilà, c'était très clairement pour partager avec mes copines, parce que je trouvais ça intéressant de voir ce que moi, je vivais et de le partager tout simplement.
Ouais, et ça t'a apporté quoi de le faire?
Ah bah après, c'est une aventure qui est dingue parce que bah, au fur et à mesure, bah, déjà moi j'aime écrire, donc c'était écrire, et puis petit à petit se rendre compte qu'il y a des gens au-delà de mon cercle de copines qui me lisent, faire des rencontres, et puis après bah, y a eu toute la période où justement il y a eu des jeunes marques qui se sont créées pour avoir des comportements plus éco-responsables, etc. Donc on a lancé des concours, c'était un peu des petits publis rédactionnels, bah, tiens je t'offre ce produit et t'en parles, donc moi je choisissais quand même, je faisais hyper gaffe, je parlais pas de n'importe quoi. Et puis de voir au fur et à mesure comment tout ça s'est structuré pour arriver à ce métier d'influenceur qui existe aujourd'hui, mais qui n'existait pas il y a 20 ans. Quoi,
hein.
Donc c'était intéressant de suivre cette évolution de la société via mon propre parcours individuel.
Ouais, complètement. Je vais faire un petit bond en allant à l'écriture de ton livre.
Ouais.
Tout le monde ne raffole pas des brocolis. Pourquoi ce titre déjà, et pourquoi avoir écrit un livre?
Alors déjà, c'est un roman.
C'est un roman,
parce que c'est vrai qu'en disant livre, on ne l'entend pas. Et on s'est amusé à regarder sur ChatGPT ce que ChatGPT disait sur « Tout le monde ne raffole pas des brocolis ». Alors là, il est parti dans un délire « Comment faire aimer les légumes aux enfants ?» Donc voilà, non, ce n'est pas du tout ça. Donc on est vraiment sur un roman. Je suis arrivée à cette conclusion, en fait c'était pendant les vacances, et comme souvent pendant les vacances j'avais tendance un peu à partir dans ma rêverie, et je venais de lire le roman de Raphaël Giordano, Ta nouvelle vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, où en gros elle saupoudre des petites clés de développement personnel à travers une fiction. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est malin de faire ça? Est-ce que ça a déjà été fait pour l'écologie? Ça n'a jamais été fait, je crois. Je vais le faire.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc j'ai commencé à écrire et à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire des nouvelles parce que c'est beaucoup plus facile qu'un roman.
Ouais.
Et donc je voulais que ce soit que des héroïnes, parce qu'il y a quand même ce petit côté girl power qui est quand même là, sans être très, très revendiqué chez moi, mais qui est quand même toujours un peu là.
Qui est quand même bien là,
ouais. Et donc j'avais 12 thématiques, 12 héroïnes pour parler de l'écologie d'une façon un peu fictionnelle, mais vraie en même temps. Et il se trouve que 15 jours après, donc j'en ai parlé à personne, j'ai fait mon truc dans mon coin, et 15 jours après j'ai une éditrice qui m'appelle Bonjour Camille, ça fait à peu près un an que je veux vous contacter, mais là, c'est la bonne année. Je prends les résolutions de bonne année, je vous écris. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Truc de fou.
Ouais.
C'est là, ça fait partie des expériences qui me disent le hasard n'existe pas. Elle serait venue me voir 6 mois avant, je lui aurais dit... Écoutez, moi, j'ai pas le temps d'écrire un livre. J'ai 2 enfants en bas âge, un travail à temps plein, c'est pas possible. Sauf que là, comme j'avais cette idée, ce petit frisson, voilà. Et on est arrivé à la conclusion que les nouvelles, c'était compliqué. Il n'y a pas forcément un lectorat pour les nouvelles. On m'a dit, il faut que tu écrives un roman. Il faut que les gens s'attachent au personnage. Et voilà. Et donc, elle m'a coachée, en fait, tout au long de l'écriture du livre. Quand elle voyait que je partais trop dans la pédagogie, reviens
côté
à
romancé,
la fiction, reviens ouais. au roman, à la romance, puisque c'est quand même une comédie romantique, il faut bien le dire. Et voilà, donc j'ai écrit ce roman, donc je suis très fière de l'avoir fait. C'est quand même un des premiers projets que j'ai vraiment fait jusqu'au bout.
Ouais.
Parce que des idées, j'en manque pas, mais des fois, on va pas jusqu'au bout. Et là, je suis allée jusqu'au bout, j'ai été éditée, donc on a assez facilement trouvé un éditeur. 15 jours après la sortie, le livre a été repéré par J'ai lu, donc il est sorti en poche à peu près un an après. Donc ça, c'est hyper gratifiant parce que c'est pas le tout de sortir un roman, c'est en plus il sort en poche, c'est le Graal. Donc voilà, et ma prochaine étape, c'est que ça devienne une série Netflix, mais ça, j'ai pas encore écrit à Netflix, mais il faut que je le fasse.
Aujourd'hui, tu fais partie des élus de la mairie de Bordeaux, et je dirais même des élus de la société civile.
Oui.
Pourquoi t'engager en politique ? Pourquoi t'as dit oui, j'imagine, il y a à peu près 4 ans, parce que ça fait 3 ans que t'es élu ?
Ouais. Alors, société civile, ça veut dire que je n'ai pas pris ma carte à aucun parti.
Ouais.
C'est très important pour moi, parce que ça... Il y a plein de partis finalement qui ont des idées, mais j'ai pas envie d'adhérer spécialement à un parti. Et pour moi, c'est important de garder un peu cette liberté-là. Après, je suis dans une équipe municipale et je suis loyale et fidèle à cette équipe municipale et à notre maire. Mais voilà, c'était important pour moi de garder cette liberté-là et de pas m'encarter. Pierre Urmic est venu me chercher justement parce que j'étais pas encartée.
Ouais.
Et qu'il avait besoin d'une... en fait, les listes électorales, ça marche par parité. Donc, si la tête de liste est un homme, il faut une femme en deuxième. Et puis après, un homme, une femme, etc. Et pour lui, c'était important d'avoir quelqu'un non encarté, donc de la société civile, mais qui soit quand même très engagé et un peu repéré. Voilà. Donc à Bordeaux, bah, il n'y en a pas 36. Hein, donc ils sont venus plusieurs fois à la charge, parce qu'au début, j'ai dit non. Hein, c'était pas du tout dans mes projets, ni dans mon... ça ne m'attirait pas, vraiment. Et puis, en fait, c'est la rencontre avec Pierre Urmic qui a été décisive, parce qu'il a su trouver les mots pour me convaincre. Et puis finalement, j'étais à un moment de ma vie où voilà, j'étais en pleine création d'entreprise. Mon souhait, c'était donc... Ecologirl est devenue une entreprise. Et un plein moment où je me questionne sur vraiment comment avoir de l'impact. Quelle est moi ma juste place pour avoir le plus d'impact, pour aller vers ce monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait.
Ouais.
Voilà. Et là, je suis dans un monde qui est entre deux et j'ai envie d'avoir de l'impact. Et quel est le meilleur endroit pour en avoir ? Et finalement,
La politique.
Bah, la politique à cet endroit-là, parce que je pense que... Bon, maintenant, je dis plus non, hein, mais j'en sais rien, mais je pense que c'est pas forcément en étant députée ou ministre ou que sais-je, mais élu local, de terrain, engagé dans ma ville que j'aime tant. Voilà, je me suis dit, allez, on y va. Et donc, on a fait cette campagne. Donc, j'ai rejoint la campagne en novembre à peu près 2019.
Ouais.
Est arrivé ce qui est arrivé en mars 2020, juste après le premier tour des élections, confinement, etc. Et finalement, on a été élus fin juin 2020.
Ouais.
Donc bientôt 3 ans.
Exactement. Et alors, tu l'as dit, tu t'es dit, en acceptant comment avoir de l'impact et potentiellement via la politique, pour le coup, via une mairie, ta réponse 3 ans après, est-ce qu'on peut avoir de l'impact dans la politique ?
Bien sûr.
Ouais.
Ah oui, ça, finalement, j'en reste persuadée. Je vois qu'on prend... Il y a des micro-décisions tous les jours. Et puis, il y a des décisions à plus grand impact tous les jours. Et puis, on est une équipe. On travaille ensemble. C'est passionnant. Et bien sûr qu'on a de l'impact. Et il y a plein de choses qui ne se voient pas encore, mais qui commencent à se voir, qui commencent à sortir. Et puis, on a les premiers chiffres qui tombent. Enfin, voilà, quand on voit qu'il y a plus de 40% de vélos en plus, par exemple, dans la ville... Même à l'œil nu, ça se voit. Il y a des vélos partout. Ça commence vraiment à se sentir. Et puis, Voilà, ouais. Donc oui, on a de l'impact.
Ok. J'ai vu une étude d'Opinion Way qui est sortie début 2023, réalisée auprès d'un peu plus de 3000 personnes, donc pas sur Bordeaux, mais de manière nationale. 81% des interrogés révélaient qu'ils n'avaient plutôt pas confiance dans les partis politiques ou pas du tout confiance. Donc respectivement 42 et 39%. 81% de personnes donc n'ont globalement pas confiance dans les politiques. Pourquoi d'après toi ?
Alors, tu as dit dans les partis politiques.
Dans les partis politiques.
Voilà. Et justement, on revient aussi à ce que moi, je ressentais et cette défiance qu'il y a par rapport au... Je pense aux partis et je pense aussi aux politiques, mais aux politiques plutôt, à mon sens, nationaux. Mmh. Parce que je pense que les élus locaux, justement, on a encore cette confiance... pas de tout le monde, hein. Attention, il y a beaucoup d'habitants aussi qui sont dans la défiance et ça peut se comprendre, mais voilà. En tout cas, moi, tous les gens que je rencontre, y a des liens qui se créent je suis à la vie associative, qui, je le dis toujours, mais je pense que j'ai la meilleure délégation. Les associations, c'est quand même des gens hyper engagés, qui sont sur le terrain, qui font parfois qui pallient les manquements de l'État.
Mmh. De plus en plus même.
Qui ont des projets formidables, qui ont... Voilà, l'association, c'est quand même le meilleur moyen pour réaliser un projet collectif. Mmh. Et donc, j'adore la vie associative. Et du coup, il y a des liens qui se créent avec les associations et tout. Et je pense que les gens voient la sincérité qu'on met dans notre action, voient les choses qu'on met en place, notre façon qu'on a de faire.
Cette façon de faire, ça allait être ma prochaine question, mais tu me tends la perche. Mais qu'est-ce qui change par rapport potentiellement à avant ? Alors, sans forcément parler de l'équipe passée, on va dire, mais plutôt d'une manière de faire de la politique comme on fait depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous différencie, s'il y a une différence encore une fois, la façon de faire ?
Pour revenir à ce que je disais sur la vie associative, nous on travaille beaucoup en intelligence collective. Donc par exemple, quand on va faire des événements pour les assos, on le fait avec les assos. Donc on va se réunir, par exemple, les forums associatifs, l'année dernière on les a travaillés avec les assos. Cette année, pareil, on recommence. Donc on a une vingtaine d'associations qui sont dans le petit comité de préparation et là on fait un grand forum des associations Place Péberlan et on travaille avec elles. Parce que moi je dis toujours, on n'a pas la science infuse, on ne va pas... avoir l'idée de génie qui fait que non, c'est en travaillant ensemble et c'est ça l'intelligence collective, c'est se réunir, c'est réfléchir ensemble et c'est voir qu'est-ce qui est le meilleur pour l'intérêt général. Et notre boussole, c'est vraiment l'intérêt général d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il faut vraiment voir à long terme. Parfois le problème aussi des politiques, c'est le court-termisme. Et nous, on est dans cette échéance-là de se dire on est dans un monde qui brûle et qui va de plus en plus brûler, et que comment on fait et pour s'adapter, pour freiner et pour prendre la bonne trajectoire. Ça fait beaucoup, mais...
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Mais c'est pour ça que c'est important d'être en collectif, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Yes.
Je connais ça. Donc donc je crois qu'on est vraiment là, dans cette période-là, où il faut qu'on arrête avec l'individualisme et il faut vraiment qu'on joue collectif et qu'on se serre les coudes pour se dire, les enjeux, ils sont là. Et notamment pour les jeunes, vraiment, moi, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Je me rends compte que moi, on parlait pas de tous ces trucs-là quand j'avais 20 ans. Donc, c'était quand même une insouciance que parfois, j'aimerais retrouver. Quand je le retrouve en écoutant de la musique que j'écoutais dans les années 90. ou 2000. Et il y a même dans... on se retrouve dans les codes vestimentaires qui reviennent parfois. Là, c'est marrant, je vois des trucs qui reviennent. Donc, il y avait cette insouciance-là. Et j'aimerais qu'ils puissent la connaître, les jeunes d'aujourd'hui. Et ils la connaissent pas forcément, mais par contre, il y en a plein qui se retroussent les manches et qui agissent. Parce que agir, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'éco-anxiété. Et de se dire, je fais ma part, je fais ce qu'il faut et je baisse pas les bras.
Il y avait dans un autre épisode qu'on a enregistré sur ce podcast, David Douillet, qui est ancien sportif, entrepreneur et politique, qui disait je suis pas forcément impressionné dans les personnes qui veulent faire de la politique parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui veulent en faire. Tu l'expliques comment ça, le fait qu'il y ait pas beaucoup de personnes qui ont envie d'en faire ? C'est pas forcément un métier, parce que pour le coup c'était à 100% là-dessus, qui attire et auquel on pense forcément.
Parce que je pense qu'aussi, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de démystifier. C'est pour ça que je raconte un peu sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, il y a les réseaux sociaux. et que mon blog est un petit peu mis de côté, on va dire. J'essaye encore de publier de temps en temps, justement, les posts que je trouve intéressants pour garder une trace. mais je crois qu'il faut démystifier ce rôle de l'élu, parce que beaucoup de gens, moi quand je croise soit des copains qui ne m'ont pas vu depuis longtemps, ou soit des gens que je ne connais pas, c'est toujours « Oh là là, tu dois être très prise. » Donc oui, effectivement, ça c'est vrai, on ne compte pas nos heures et voilà, mais je pense que les gens concrètement ne savent pas ce qu'on fait. Mmh. Et à quoi sert un élu? Quelles sont les décisions qu'on a à prendre? Est-ce que vraiment on a un impact? Voilà. Donc tout ça, je crois que c'est important et on est plusieurs à le faire et à essayer de montrer ce qu'on fait très concrètement, de partager pour peut-être donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre pour les prochaines élections. C'est dans 3 ans.
Ouais.
Donc peut-être qu'à Bordeaux, il y a des gens qui vont avoir envie de s'y mettre à leur tour. Mais c'est vrai que, j'en parlais ce matin sur le fait qu'aux dernières élections, il y a plein de maires qui ont jeté l'éponge. C'est très dur d'être maire. Mmh. Très, très dur.
Pourquoi ?
Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Je pensais beaucoup aux maires en ruralité, notamment. Mmh. Les maires en ruralité, ils ont une équipe très petite, très réduite. Donc, il faut qu'ils fassent beaucoup. Donc, ils prennent beaucoup sur eux.
Ouais.
Très soumis à la critique. Mmh. Et donc, moi, je comprends qu'il y en ait qui jettent l'éponge. Hein. Voilà, enfin, moi, je le dis très clairement, moi, j'aimerais pas être maire. Hein. Et après, bon, maire d'une grande ville, t'es encore plus soumis à la critique parce que t'as encore plus d'habitants et de gens qui te regardent. Après, maire d'une grande ville, t'as l'équipe qui suit, l'administration, les services, etc.
Ouais.
Donc, je pense que c'est plus confortable d'une certaine façon qu'un petit maire, un maire d'une petite commune qui doit vraiment faire tout.
Mmh.
Et en même temps, t'es vraiment soumis à la critique. Donc voilà, moi je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais si vous aimez ce qu'on fait, dites-le nous, parce que c'est hyper aussi important d'entendre les gens contents, parce que les gens contents ne font pas de pétition.
Ouais.
Donc on a besoin aussi d'entendre quand les gens sont contents et que c'est bien, etc. Donc ça arrive, hein, ça arrive, ça fait très, très plaisir. Parce que c'est pas la majorité.
Ouais. Et alors justement, alors sans nous raconter forcément une journée type, mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'élu? Parce qu'on peut imaginer un élu va serrer des mains au marché. J'exagère, tu vois. Je prends vraiment prendre des décisions de temps en temps, mais concrètement, ça se passe comment en fait?
Bon, alors moi maintenant, j'ai un peu deux façons de faire différentes, puisque j'ai la vie associative et la mairie de quartier. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors la vie associative, ça va être rencontrer les associations pour les aider, pour voir quels sont leurs besoins. Et les besoins, ils sont nombreux, que ce soit des subventions, de la visibilité, des locaux associatifs. Ça va être évidemment travailler avec mes services pour organiser tous les événements qui jalonnent une année. Donc les forums associatifs, la journée mondiale du bénévolat, pour aider les... On fait un forum dédié pour aider les assos à recruter des bénévoles. On organise des journées inter-associations pour que les assos se rencontrent entre elles. Il y a le prix des jeunes associations où on a les assos de moins de 3 ans qui viennent présenter au jury ce qu'elles font. Et après, il y a tout un accompagnement dédié. Donc voilà, donc tout ça, c'est, c'est ce qu'on fait pour les assos, pour les accompagner. Puis après, voilà, le quotidien. Et après, la mairie de quartier, c'est rencontrer les riverains, puisque les riverains viennent me voir pour m'exposer telle et telle problématique dans leur rue. C'est monter des événements. Là, en ce moment, je suis en train de préparer la fête de la musique. J'essaye de faire une fête de la musique 100% mon quartier a du talent. Donc, ça va être assez chouette.
Ouais.
Rencontrer les commerçants. Et puis après, gérer le quotidien, la voirie, les trottoirs, les poubelles qui ne sont pas rentrées. Voilà quoi.
Les petits problèmes du quotidien.
Mais qui sont importants aussi à gérer et qui font le cadre de vie des habitants.
Ouais. On a le temps tu as le temps dans tout ça d'impulser des choses qui viennent de toi ou en tout cas du collectif.
Oui, parce que de toute façon, je pense qu'on met de soi dans toutes les décisions qu'on prend. Nous, on a une politique globale qui est notre programme. Sur lequel on a été élu, qu'on essaye de respecter, de dérouler.
Mmh.
On a la volonté du maire, évidemment, qui répond à ce programme-là. Mais après, chacun dans notre quotidien, de toute façon, on met notre patte. Hein. Quand je rencontre un riverain, c'est ma personnalité et c'est moi.
Ouais.
Donc ou quand je vais serrer des mains. Je n'ai pas encore serré des mains sur le marché, tu vois.
Okay.
Ça, c'est typiquement quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis après, on a tous notre façon de faire. Moi, Je suis pas non plus quelqu'un qui aime se montrer, parler fort, etc. Donc c'est pas mon style. Donc je vais pas lutter contre ça. Je reste moi-même, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais inverser ?
Ah, elle est compliquée votre question avec inverser toujours là. Pourquoi vous voulez toujours inverser ? Oh, bah, j'aimerais inverser la courbe du réchauffement climatique, ouais. Déjà, hein, parce que je pense que là, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire, plus 2 degrés, c'est pas concret en fait pour les gens, donc voilà, mais inverser ça.
Comment on le rend concret alors ?
Je pense que c'est devenu très concret l'année dernière avec les canicules et les feux. Après le dérèglement climatique, c'est pas forcément faire plus chaud, ça peut être aussi faire plus froid, créer des tempêtes, des tornades, toutes ces inondations. Donc c'est ça aussi, c'est ces phénomènes un peu extrêmes qu'on va voir de plus en plus. Donc moi, quand j'entends des gens dire oh là là, il fait super froid, c'est ça le réchauffement climatique, ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la courbe, elle grandit sur la globalité de notre Terre, mais ça induit des impacts et des conséquences très diverses et variées.
Des dérèglements. Toi,
et malheureusement, c'est les plus pauvres qui vont en subir les conséquences avant nous, qui sommes un peu privilégiés. Donc nous, on le ressent, on l'a ressenti là sur les feux de forêt. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fera quand les eaux vont monter et qu'une partie de Bordeaux sera inondée ?
Ouais.
Ça, c'est concret.
Donc, voilà. Inverser
j'aimerais
la courbe.
Inverser aussi la courbe de la chute de la biodiversité, dont on ne parle pas suffisamment selon moi.
Ouais.
Mais moi, ça me fait frémir, en fait, de me dire que la vie sauvage est en train de s'éteindre. C'est... Voilà, alors peut-être qu'il y a plein de gens encore qui ne font pas non plus le lien. Mais imaginez un monde sans vie sauvage, c'est juste pas possible. Puis après, c'est nous hein, sur la liste.
Oui, à ce qu'il paraît. ça sert à quoi la politique ?
Ben, la politique, c'est régir la vie de la cité, en fait. Hein. Donc, c'est poser des règles.
Mmh.
C'est poser des règles pour faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est un peu comme le code de la route, quoi. Hein. voilà, le code de vivre ensemble. Parce que imagine, il n'y a pas de code de la route, les voitures roulent n'importe comment. Y a des accidents.
Ouais.
Voilà, donc c'est déjà poser un peu les règles du vivre ensemble. Et puis les faire, tenter de les faire respecter. voilà, c'est pas simple.
Pourquoi s'engager ?
Moi, je pars du principe que s'engager, ça rend heureux. Voilà. Donc déjà, à titre très, très individuel, je pense que si on ne s'engage pas, il manque quelque chose à sa vie.
Mmh.
Voilà. Après, on peut s'engager pour plein de choses, finalement. Et ça peut être aussi s'engager... déjà, s'engager en amour.
Mmh.
Pourquoi s'engager au lieu de rester dans une relation... on papillonne, etc. Enfin, voilà, c'est se donner aussi quelque chose de plus ancré, de plus posé.
Mmh.
Et voilà, et ça peut être s'engager auprès d'une personne âgée de son voisinage, et ne serait-ce que ça, d'aller se dire, je vais lui rendre visite 2-3 fois par semaine. Moi, l'isolement des personnes âgées, c'est quelque chose qui me touche énormément.
Mmh.
Me dire qu'il y a des gens qui ne voient personne, qui sont tout seuls, je trouve ça flippant. Donc ça peut aussi être ça, s'engager, se dire je repère une personne un peu isolée près de chez moi et je m'engage à aller la voir régulièrement. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, ça peut être très riche. Et voilà.
Ouais.
Ça peut être juste ça, de s'engager.
Ouais. Il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours ? Et si oui, est-ce que tu en aurais une, deux, trois à nous partager ?
Bah, je reprends toujours quand on me pose cette question, parce qu'elle revient souvent.
J'imagine.
C'est marrant, cette question de l'inspiration. Et au début, je ne savais pas trop quoi répondre. Et je reprends toujours Sœur Emmanuelle, que j'ai en photo dans mon bureau et que j'ai rencontrée quand j'avais 13 ans. Et je pense qu'elle m'a beaucoup marquée, parce que c'était une personne... une petite fille dans un corps de vieille dame quand je l'ai rencontrée. Donc ça, elle m'a beaucoup touchée parce que j'avais l'impression d'avoir le même âge qu'elle. Et pourtant, elle avait cette sagesse et cette maturité. Et en fait, elle a vécu avec des gens qui n'avaient rien, strictement rien, les chiffonniers du Caire en Égypte. Et donc, les chiffonniers, c'est des gens qui vivent dans des décharges et qui essayent de récupérer le moindre petit truc qu'ils vont pouvoir vendre ou manger. Et elle disait, là-bas, c'est la joie de vivre. Les gens sont hyper heureux alors qu'ils n'ont rien. Et quand je rentre en France, les gens râlent, ils se plaignent alors qu'ils ont tout. Et ça m'a beaucoup marqué et j'y pense très, très souvent de ce truc-là, de se dire, qu'est-ce que nous, pourquoi on se plaint en fait ? On a tout et on se plaint. Et on ne devrait pas.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux étudiantes et aux étudiants et après à l'école ?
À quel niveau ?
Conseil de vie, conseil de vie. Parce que j'allais dire de boulot, mais les deux sont tellement liés que c'est conseil de vie.
En fait. Moi, j'aime pas tellement donner des conseils parce qu'en fait, je me dis, je suis qui moi pour donner des conseils ? Mais puisque tu me poses la question,
tu me demandes.
Vraiment. Moi, j'aime expérimenter. Voilà. Et c'est aussi ça, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a de différent ? Et je pense que nous, on l'a inscrit dans notre contrat démocratique, le droit à l'erreur. Le droit, voilà. Et ma grande phrase totem, c'est en se plantant qu'on pousse. Et voilà, le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et si ça serait peut-être ça, mon conseil, essayez des choses, essayez. Et justement, avec les associations, on peut faire du bénévolat. C'est quand même le truc. Vous pouvez vous engager pour 2 heures, 3 heures, un peu plus, et tenter des choses, aller rencontrer des gens, essayez des trucs, quoi. Pas la drogue, hein.
Essayez, mais bon, des bonnes choses, quoi.
Essayez des bonnes choses. Et bénévolat, ça veut dire faire le bien. Donc, voilà, agir rend heureux. Moi, j'y crois vraiment. Tentez des choses. Vous allez voir, allez faire une maraude à la rencontre des gens à la rue. Allez faire du bénévolat dans un hôpital à la rencontre des personnes qui sont seules ou des enfants. Allez travailler dans un refuge pour animaux. Voilà. Mais toutes ces petites expériences, elles vont vous enrichir. Elles vont enrichir votre CV et elles vont vous enrichir vous. Et je crois qu'aujourd'hui, les employeurs, ils sont aussi beaucoup à la recherche de ce qu'on appelle les soft skills, mais ces fameuses petites compétences ou choses qu'on a savoir-être et qu'on aussi, a développées au cours de son parcours, dont les ados n'ont pas forcément, les ados jeunes adultes n'ont pas forcément conscience, mais en se questionnant, je sais faire ça et j'ai fait ça dans ma vie et tout. Et c'est en multipliant comme ça les petites actions qu'on agglomère tout ça.
Ouais. Et comme conseil à l'école.
Alors, à l'école, j'ai envie de leur dire, vous avez cette envie, cette volonté, voilà, d'être très engagé et tout. Gardez ça, gardez ce cap-là. C'est hyper important qu'on ait aujourd'hui des écoles qui défrichent ça et qui montrent aux autres la voie et que c'est possible. Et que, justement, je parlais tout à l'heure des nouveaux métiers et tout. Et je pense qu'il faut vraiment former nos jeunes à d'autres voies. Et merci à l'école de faire ça.
Ouais. Maintenant, je vais te donner des mots.
Oula.
Et je vais te laisser répondre soit par un autre mot, soit par une phrase. C'est toi qui vois. Mais tu peux juste répondre au tac au tac par un mot.
Tac au tac.
Ouais. Écologie.
Bonheur.
Rencontre.
Vital.
Politique.
Important.
Le vivant.
La vie.
Association.
Association. Collectif.
Démocratie.
En danger.
Le pouvoir.
Le pouvoir. Ah, je bloque. Je bloque sur le pouvoir. Le pouvoir est un miroir. Aux alouettes.
Ok. Impact.
Positif.
Combat.
Lutte.
Bordeaux.
Respire.
Joli. C'est pas un mot que je te donne là, joli. Hein. Je réagis à ce que tu viens de dire. Parti politique.
Nécessaire.
Brocoli.
Joie.
Erreur.
Bénéfique.
Et vert. V-E-R-T.
La vie.
Et je vais mettre un Evers, V-E-R-S.
Evers, vers comment il dit dans Toy Story, là ?
Vers l'infini et
l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà.
Sublime. Merci beaucoup, Camille, de me répondre à mes questions. À très bientôt.
À bientôt.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Toute l'équipe d'Imagine Campus espère que cet épisode vous aura apporté des clés et de l'inspiration pour donner de l'impact à votre métier. Alors à très vite pour un nouvel épisode.